Merci d'écouter RFI, 1h à Paris, minuit, temps universel.
Paul Lancin-Spinelli.
Une peur qui peine à être évacuée par les habitants de Goma après la prise de la capitale provinciale du Nord Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo par le M23 soutenu par le Rwanda. La vie reprend son cours peu à peu, témoignage à suivre. Une quatrième salve d'échange de prisonniers entre le Hamas et Israël ce samedi. 3 otages israéliens vont être libérés par le groupe islamiste contre 183 détenus palestiniens. Après la découverte des 2 boîtes noires de l'avion de ligne impliqué dans le crash aérien qui a fait 67 morts au-dessus de Washington aux États-Unis mercredi, c'est la boîte noire de l'hélicoptère militaire accidenté qui était retrouvé ce samedi. Le point sur l'enquête dans ce journal. Et puis c'était il y a 5 ans jour pour jour vendredi, l'Union européenne disait au revoir au Royaume-Uni. C'était le 31 janvier 2019. Notre correspondante à Londres s'est entretenue avec plusieurs spécialistes pour faire le bilan du Brexit côté britannique. Ils poussent parfois la porte de chez eux pour la toute première fois depuis plusieurs jours à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les affrontements entre l'armée congolaise appuyée par ses alliés Wazalendo et le M23 soutenu lui par le Rwanda ont fait environ 700 morts selon le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, des chiffres avancés ce vendredi. Après ces combats donc, la vie reprend doucement dans la capitale provinciale du Nord Kivu, Amira Sulem.
Malgré une situation encore instable, ce chauffeur de moto-taxi de Goma a repris le chemin du travail. Mais les clients, eux, ne sont pas forcément au rendez-vous.
Ça se calme un peu, mais certaines personnes ont encore peur. C'est un calme précaire. Les clients sont moins nombreux parce qu'ils n'ont pas d'argent, et nous non plus d'ailleurs. On arrive tout juste à gagner de quoi nourrir la famille chaque jour.
Les combattants du M23 restent visibles dans la ville. Les habitants ont profité de l'accalmie pour sortir. Prendre des nouvelles d'un proche, faire quelques courses.
On n'a pas d'eau chez nous à cause des combats. Il n'y a pas d'eau à boire, pas d'eau pour préparer la nourriture, pour faire la lessive. C'est compliqué. Comme il faut laver les vêtements, nous sommes venus ici au lac. C'est la première fois que je sors et je l'ai fait en ayant peur.
Signe que la vie reprenait malgré tout, tout doucement, certaines lignes de transport avaient repris leur trafic.
Amira Sulem, et après son offensive éclair sur Goma, le M23 soutenu par le Rwanda avance maintenant en direction de Bukavu. Le groupe armé et les forces rwandaises se trouveraient à environ 60 km de la capitale provinciale du Sud Kivu, selon Jean-Pierre Lacroix, le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Son histoire avait beaucoup affecté les Israéliens. Yarden Bibas sera libéré ce samedi par le Hamas aux côtés de 2 autres otages. Cet Israélien avait été enlevé le 7 octobre 2023 avec sa famille, sauf que le groupe islamiste avait ensuite annoncé la mort dans un bombardement de son épouse et de ses 2 enfants, information qu'Israël n'avait jamais confirmée. Dans le cadre de l'accord de trêve en vigueur à Gaza, ces 3 otages vont être relâchés en échange de 183 prisonniers palestiniens. Aux États-Unis, une nouvelle pièce maîtresse dans l'enquête sur le crash aérien de Washington, la boîte noire de l'hélicoptère militaire qui a percuté mercredi un avion de ligne vient d'être retrouvé. C'est ce qu'ont annoncé les enquêteurs il y a environ 1 heure. Celle de l'avion avait été repêchée la veille. Alors que les sauveteurs, eux, continuent de chercher les corps des 67 victimes, de premiers éléments commencent à se dessiner pour comprendre la catastrophe. Nicolas Roca.
Le document consulté par le New York Times assure que les effectifs de la tour de contrôle étaient inhabituels pour l'heure de la journée et le volume du trafic. Le contrôleur aérien chargé des hélicoptères donnait aussi des instructions aux avions qui décollaient ou atterrissaient, des tâches normalement effectuées par 2 personnes, car les fréquences radio utilisées pour communiquer sont parfois différentes. Une information loin d'être anodine, alors que l'hélicoptère avait nettement dévié de sa trajectoire et n'a pas été suffisamment bien dirigé pour éviter l'avion. Des enregistrements audio permettent d'entendre clairement le contrôleur demander à l'hélicoptère de passer derrière l'appareil quelques secondes avant l'explosion. Les problèmes de sous-effectifs dans les tours de contrôle aériennes américaines semblent structurels. 25 contrôleurs seulement étaient affectés à la tour de l'aéroport Ronald Reagan où s'est déroulée la catastrophe, selon l'administration fédérale de l'aviation, bien en dessous des 30 recommandés. Les deux boîtes noires ont été retrouvées et sont en train d'être analysées par l'agence américaine chargée de la sécurité des transports. Elle espère publier un rapport préliminaire dans les 30 prochains jours.
Explication de Nicolas Rocca. Aux États-Unis, toujours, Donald Trump a finalement tranché en faveur de droits de douane qui concerneront le Mexique, le Canada et la Chine. Parmi les produits concernés, les semi-conducteurs, l'acier, le gaz, comme les États-Unis importent 60% de leur pétrole depuis le Canada, les taxes pourraient être limitées à 10% sur ce produit et non 25% comme le reste des produits canadiens. Le président américain a ajouté que l'Union européenne suivra sur cette liste. Daniel Ortega continue de cimenter son pouvoir au Nicaragua. L'Assemblée nationale a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi avoir approuvé l'intégralité d'une réforme constitutionnelle pour donner les pleins pouvoirs aux dirigeants actuels. Un texte qui prolonge aussi le mandat présidentiel et fait grimper l'épouse de Daniel Ortega de vice-présidente à co-présidente du Nicaragua, Oriane Verdier.
Cette réforme consolide le pouvoir absolu exercé par le couple sur le pays d'Amérique centrale. Les deux dirigeants, Daniel Ortega et son épouse Rosario Murillo, coordonneront notamment les organes législatifs, judiciaires et électoraux qui étaient officiellement indépendants jusqu'alors. Le mandat présidentiel passe également de 5 à 6 ans. Cette mesure étant rétroactive, les prochaines élections auront donc lieu en 2028. Rosario Murillo était vice-présidente depuis 2017. Elle est donc aujourd'hui co-présidente et pourrait être appelée à prendre la relève de Daniel Ortega. Lui a 79 ans, il est à la tête du Nicaragua depuis 18 ans. Le couple a radicalisé ses positions après les manifestations anti-gouvernementales de 2018, dont la répression a fait 320 morts selon l'ONU. Daniel Ortega est accusé par les États-Unis, l'Union européenne et plusieurs pays d'Amérique latine d'avoir instauré une autocratie. Ces changements drastiques marquent la destruction de l'état de droit et des libertés fondamentales dans le pays, a estimé un membre du groupe d'experts des Nations Unies pour le Nicaragua.
Oriane Verdier, 5000 soldats vénézuéliens déployés dans le royaume colombien de la Coca. Nicolas Maduro, le président vénézuélien, a annoncé ce vendredi le lancement d'une opération militaire dans le Catatumbo. Ça se trouve à la frontière entre les deux pays, dans l'ouest de la Colombie. Depuis la mi-janvier, sur fond de contrôle du trafic de drogue, des affrontements ont fait 54 morts entre l'armée de libération nationale et des dissidents des FARC. Il y a 5 ans, jour pour jour ce vendredi, le Royaume-Uni claquait la porte de l'Union européenne. L'image marquante de cette nuit du 31 janvier 2019, ce sont ces feux d'artifice tirés devant le Parlement de Westminster par les partisans du Brexit. Une célébration de courte durée puisque 2 mois plus tard, la Grande-Bretagne, comme le reste du monde, se confinait devant l'expansion de la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, le bilan de ce bouleversement qu'a été le Brexit est compliqué à établir, mais pour tenter d'y voir plus clair, notre correspondante à Londres, Emeline Vin, en a parlé avec plusieurs experts.
Côté économie, difficile de démêler ce qui tient à la pandémie, à la crise de l'énergie ou au Brexit, mais l'économiste Jonathan Portz est formel.
On peut dire avec une quasi-certitude que le Brexit a eu un impact négatif. Les estimations de 5% de PIB vont trop loin. Mon analyse, c'est que le Brexit nous a coûté 2 à 3% de PIB.
En clair, moins pire qu'attendu. La grande promesse du Brexit, la souveraineté retrouvée, s'est en revanche bien matérialisée, selon Anand Menon, politologue et directeur du think tank UK in a Changing Europe.
Le gouvernement britannique a désormais une certaine liberté sur les normes, en particulier en matière de services financiers, d'intelligence artificielle, avec l'espoir d'attirer des investissements. Il n'y a pour l'instant pas de résultats concrets, mais le gouvernement compte jouer là-dessus.
Les partisans du Brexit espéraient aussi un contrôle plus fort des frontières et pourtant, l'immigration n'a jamais été aussi élevée, pointe l'économiste Jonathan Portz.
Personne ne s'attendait à une telle montée de l'immigration extra-européenne. L'une des conséquences du Brexit, c'est une population plus diverse et plus jeune.
Pour les deux chercheurs et malgré la sortie de l'UE, le Royaume-Uni reste une puissance mondiale, économique et diplomatique. Emeline Van Londres, RFI.
Et puis l'une des provinces britanniques terrassée pour son entrée en lice dans le tournoi des 6 nations de rugby. Le Pays de Galles a été giflé 43-0 par le 15 de France ce vendredi à Paris. Une pluie de 7 essais qui assure le bonus offensif aux Bleus. Ce samedi, l'Écosse reçoit l'Italie et l'Angleterre se déplace en Irlande. C'est la fin de ce journal sur Radio France Internationale. Merci à vous de l'avoir suivi. Toute l'information en continu et en direct sur notre site rfi.fr. Pour l'heure, 1h10 dans nos studios à Paris, minuit 10 en temps universel.